Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Pauline Brabant.
Bonjour à vous.
C'est un troisième épisode de cette série des clés pour vivre. Je vous reçois au titre de témoin puisque vous avez écrit votre histoire de vie. Vous avez 44 ans aujourd'hui. Il s'intitule Dieu m'a sauvée. Je me permets de lire, si vous permettez, page 21. Un petit extrait et c'est vous qui écrivez. La Vierge Marie est splendide. Sainte Marie, Mère de Dieu qui nous console quand on pleure. Elle est là chaque jour à nos côtés. T'es belle, ma maman, du ciel. Je sais que quand je pense à toi ou que je te prie, je sais que tu travailleras bien. Tu feras en sorte que je puisse aller bien et qu'au final, mes galères se changeront en bonheur. Ces galères qui existent pour chacun d'entre nous et qui aussi nous permettent d'avancer dans la vie quotidienne. Moi, j'ai l'impression de faire du surplace en ce moment. Ma vie, c'est rigolo, il y en a qui se plaignent, d'autres trop en sécurité. Vous savez, un mari, une maison, des enfants, un chien, etc. Enfin, Pauline Brabant, c'est un bel extrait aussi qui évoque cette relation que vous avez avec votre maman du ciel, au fond. Hein. Oui. Une maman du ciel, une mère pour l'humanité qui console.
Exactement. Hein,
voilà, qui intercède. Elle est venue vous consoler, votre cœur pleurait, vous avez eu de nombreux traumatismes, et notamment un traumatisme qui va vous conduire à faire une tentative à Paris, une tentative de suicide dans le métro parisien. Est-ce que vous voulez bien revenir sur cet épisode du suicide ?
Oui, alors en fait, quand tout va mal et qu'on se sent tellement désespéré parce qu'on a, ça devient insupportable la vie, bah forcément on peut penser aussi au suicide. Et là ça a été je me sentais inutile en fait, je me sentais pas accomplie, je me sentais désespérée vraiment. Et du coup ça, je me suis jetée dans le métro au moment où je travaillais du coup dans le luxe, notamment chez LVMH, où là j'arrivais pas à percer, ça fonctionnait pas bien parce que je suis allée aussi de galères aussi dans le travail. Et pour moi c'est un peu comme si, parce
vous êtes une artiste, on découvrira aussi, on n'a pas encore ouvert cette porte de l'artiste que vous êtes.
Et c'est un miracle en fait, puisque je suis sortie avec une luxation du pied gauche, donc ni paraplégique et ni morte, donc tout simplement comme quoi, Dieu m'a sauvé.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le titre pour avoir une telle idée suicidaire de se jeter dans le métro parisien ?
Peut-être.
Vous étiez sous médicaments ou sans médicaments à l'époque ?
Non, je pense que c'était avec des médicaments, mais un acte de détresse, c'est un acte où on se sent pas dans ce monde-là, qui est difficile aussi. Et on se sent inutile aussi, on se dit, je pense que c'est le fait aussi de se sentir inutile, alors qu'en fait, on a tous une utilité dans la société aujourd'hui. Ça, faut pas l'oublier aussi.
Donc on entend l'inutilité.
Oui, et c'est ça qui provoque des tentatives de suicide. Un manque d'amour aussi, ça peut être aussi un manque d'amour, parce qu'on est fait pour aimer et être aimé. Un manque d'amour, le fait de se sentir inutile aussi... Et c'est ça qui m'a fait penser au suicide, en fait.
Vous êtes une miraculée.
Oui, un peu, oui. Et ça me fait toujours penser à Lourdes, parce que...
Vous aimez bien ?
Oui, j'y suis allée plusieurs fois, et je trouve qu'on est toujours guéri, soit de l'intérieur, soit aussi physiquement, mais Lourdes, ça provoque aussi beaucoup d'apaisement, beaucoup de paix intérieure.
C'est un hôpital pour vous ?
Oui, c'est aussi
Puisqu'on parle, avec vous, on parle, c'est un grand tour, c'est une grande histoire de traumatisme, de blessure, de maladie avec la bipolarité. Et puis ce sanctuaire de Lourdes, un hôpital de campagne.
Oui, il y a vers la fin du livre, parce que j'ai pas envie de rester sur que des choses difficiles, sachant que de toute façon, la vie, c'est des hauts et des bas. Déjà, quand on a compris ce jeu, que la vie, c'est des hauts et des bas, le jeu de la vie, c'est ça, en fait. Le fait d'avoir aussi d'avoir aussi été à Lourdes. Bon, c'est pas évident d'en parler, la tentative du suicide, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec mes mots, mais bon, ça me ouais, replonge dans ça. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de me dire, bah, finalement, heureusement que je suis pas morte.
Mais là, vous témoignez d'un miracle. Hein. Vous êtes une ressuscitée, Pauline Brabant.
Surtout, oui, qu'on sort de bac aussi, mais je pense que les miracles existent, en fait. On a tendance à fermer les yeux.
C'est quoi le plus beau des miracles dans votre vie, à vous?
Bah, je pense c'est de croire en Dieu. C'est la foi, en fait, au final. S'il n'y a pas la foi, si on a tous la foi, en fait, déjà, on sera tous sortis d'affaires, au final. Et donc, vers la fin du livre, je parle de lourde guérison intérieure, où il y a certains passages, et bah, ça remet un peu les choses à leur place, où peut-être que les gens qui sont en manque de spiritualité, ils se cherchent, alors que bah, tout est sous nos yeux. Il suffit de voir la nature. La nature qui est belle, il y a bien un créateur, il y a quelqu'un qui a créé ça.
Lourdes, c'est la rencontre avec cette mère, avec Marie.
Oui, avec Marie aussi, et aussi avec bah, tous les gens qui guérissent à Lourdes. C'est pas non plus des choses qui... C'est la vérité, en fait. Hein. Donc,
c'est quoi la vérité? Parce que vous parlez souvent de vérité,
bah,
de cohérence
aussi. La vérité,
aussi.
C'est à travers ce témoignage... Que Dieu existe, en fait, mais après, je peux paraître comme une mystique, mais...
C'est quoi un mystique pour vous?
Un mystique, c'est quelqu'un qui a eu une expérience de Dieu dans sa vie, que ce soit... qu'il a mis sur un autre chemin, sur une autre route. Et je pense qu'on ne tombe pas non plus par hasard. Parfois, on peut tomber, mais quand on se relève, au final, les choses qui étaient difficiles dans notre vie, ça devient vraiment des beaux cadeaux du ciel, en fait. Et on a tendance sur le moment à se dire waouh, c'est difficile, mais quand on sort de là, on se dit waouh, elle est belle la vie au final.
Et alors au final, votre vie n'est pas finie. Vous pouvez témoigner dans ce troisième épisode que malgré tous les épisodes de traumatisme, la vie est belle.
La vie est belle.
Aujourd'hui,
ouais.
Elle est belle pour vous.
Oui.
Moi, je rencontre une femme qui rayonne, une femme debout, une femme qui semble prendre la parole, mais en vérité, cohérence aussi dans son témoignage de vie.
Bah, en fait, un témoignage, déjà, c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Donc, en fait, j'invente rien. J'ai même pas pu, même dans le livre, quand je voulais parler un peu de ma famille, j'ai pas voulu changer les noms parce que je voulais que ça reste tel quel, vrai, en fait. Donc, c'est vrai qu'on est appelé à témoigner quand il se passe des choses bien. Bah, autant que ça aide les autres aussi, en fait. Sachant qu'aujourd'hui, comme on le sait, il y a pas mal de gens qui veulent se suicider, en fait. Hein, suite au Covid qui a accentué
aussi. Beaucoup de jeunes
qui sont en manque de repères, en manque d'amour aussi, en manque de se sentir utile finalement, puisque aussi les études c'est compliqué aujourd'hui pour chaque élève, chaque étudiant. Quand on est ado, on est généralement en première et finalement c'est compliqué. Quand ils sortent de là, il n'y a pas forcément du travail. Donc on se sent aussi là, je pense que c'est le fait de un mal-être, bah ça c'est sûr, le suicide c'est le mal-être.
Vous avez beaucoup de compassion pour cette jeunesse aujourd'hui qui est en mal-être.
Oui, il y a un mal-être général en fait. Et au final, faut s'accrocher, quoi. Quand on s'accroche, après, bah, il y a des belles choses
qui
arrivent.
Alors, vous avez peut-être des parents qui vous écoutent maintenant, ou des grands-parents, et des parents qui sont peut-être en galère avec peut-être des difficultés, avec des enfants tombés peut-être en dépression ou avec des gros traumatismes. Qu'est-ce que vous pourriez, vous, dire à ces parents, peut-être pour les soutenir ou les encourager? Parce que vous revenez de loin.
Oui, bah faire des petites choses, des actes d'amour en fait, et puis après, bah s'ils croient en Dieu, s'ils croient en Dieu, autant faire de la prière, parce que ça, dans notre société, on a oublié la force de la prière, qu'elle est là en fait, elle est réelle, la force de la prière. Donc si les grands-parents ou les parents sont chrétiens, bah prier. Ceux qui connaissent pas encore Dieu, bah qui restent sur des actes d'amour. Et la montrer surtout un regard, montrer que la personne en face, elle est utile en fait. Lui montrer son utilité en fait.
Donc vous revenez à ce point important là, ça l'a été pour vous?
Oui, je pense que c'est important de...
Vous avez été blessée de vous sentir parfois ou rejetée ou avoir des mauvais regards dans, par exemple, le milieu professionnel?
Oui, c'est très difficile quand on n'est pas accepté dans le milieu professionnel.
Vous l'avez surmonté comment?
Au fur et à mesure, ça a pris du temps, mais après j'ai accepté, comme je vous ai dit, ma maladie.
Est-ce qu'on est différent dans cette maladie, dans le monde professionnel? On n'est pas accepté dans le monde professionnel?
Non, on n'est pas accepté. On n'est pas accepté dans le monde professionnel.
On est rejeté.
On est rejeté complètement. Et après, donc, ça crée aussi un isolement. Ça, en fait, c'est un cercle vicieux finalement, parce que quand on veut, tout le monde à un moment donné veut avoir son autonomie, comme l'adolescent va vouloir devenir adulte, il va vouloir avoir son autonomie. Le fait de ne pas décoller dans le travail, de ne pas pouvoir faire une carrière, ça va engendrer le problème tout simplement aussi de ne pas pouvoir se loger. Et puis, c'est un peu un cercle vicieux au final. Donc après, il y a toujours des, je pense qu'il y a toujours des clés, il y a toujours, comme quand on dit, quand une porte se ferme, on a une autre qui s'ouvre. Donc toujours pas oublier ça, en fait. C'est finalement, comme quand, là, je reviens sur le monde professionnel, mais parfois, souvent, bah, ça, c'est du vécu, je pense que tout le monde l'a vécu, ça aussi. C'est quand on passe un entretien professionnel et que là, on est un peu dégoûté sur le moment même parce qu'on n'est pas reçu, ça n'a pas fonctionné pour cette entreprise. On n'a pas le choix, il faut continuer à chercher autre chose. Au final, on va obtenir un meilleur. Moi, ça m'est souvent arrivé ça aussi dans ma vie. Si j'ai pas ce que je veux de suite, bah finalement, je continue et après, j'ai quelque chose de mieux que ce que je devais avoir au départ.
Parce que vous avez persévéré peut-être. Hein.
Oui, et
Oui.
puis après, c'est toujours un message d'espérance aussi.
Et c'est un peu le but, hein,
Oui.
en vous recevant avec
Ouais.
cette prise aussi de parole au micro de notre et de nos radios chrétiennes, l'espérance au bout du chemin. Hein.
Oui.
Et même si des portes se ferment, comme vous l'avez témoigné il y a quelques instants, d'autres portes peuvent s'ouvrir. Hein. Si ça peut être la porte du ciel, la porte du paradis, c'est
Oui.
encore meilleur. J'ai l'impression que vous cherchez cette porte-là, hein,
Oui.
Pauline. Donc, on va continuer pour peut-être fermer les mauvaises portes et ouvrir les
Ouais.
bonnes portes. Hein, et pourquoi pas cette porte du ciel.
Oui.
Pauline Brabant, Dieu m'a sauvée, c'est le titre de votre petit livre aux éditions Vérone, où on découvre un peu toute votre histoire, hein, avec ces moments de haut, ces moments de bas, ces moments de chute, mais surtout ces moments de relèvement. Hein.
Oui.
Et c'est l'espérance au bout du chemin. À demain, même lieu, même heure.
Merci.